Merci. Lionel Ragot, le nouveau modèle de croissance, est obligé de tenir compte d'un certain nombre de contraintes, des contraintes, si on peut appeler comme ça, des contraintes sociales, des contraintes environnementales. Donc peut-être je vous donne la parole.
Merci. Donc moi, je vais plutôt parler des contraintes environnementales. Et en particulier, donc, on parle beaucoup de croissance verte. Alors, je ne vais pas développer le concept et les modalités de la croissance verte, mais plutôt insister sur comment on peut y arriver, donc les instruments incitatifs qui vont entraîner deux effets principaux. Un premier qui relie à la question des nouveaux modes de croissance et en particulier sur les nouvelles technologies de l'information et des communications, qui est un autre versant. À savoir que cette politique incitative environnementale risque d'accroître en partie le problème de la solvabilité de la demande, donc le potentiel de pouvoir d'achat qui pourrait se tourner vers ces nouveaux marchés pour diverses raisons que je vais évoquer. Deuxièmement, il me semble, il faut tout à fait mettre en évidence ce fait, c'est que cette politique-là a aussi des effets distributifs assez importants. Et dont il faut prendre garde, et qui peut entraîner une montée des inégalités par d'autres mécanismes que ceux qui ont été évoqués tout à l'heure sur les inégalités salariales et autres, des inégalités qui passent par la fiscalité environnementale. Alors, je ne vais pas rappeler le problème du réchauffement climatique, hein. On a eu un petit film précédemment qui exposait très bien les choses. Donc, on passe de la prise de conscience à l'action. J'espère que Copenhague sera une réussite pour qu'on passe à l'action au niveau mondial, parce que l'action, ben, au niveau européen et au niveau français, on est dedans, hein. Au niveau européen, avec les 3-20, hein, 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 20% d'énergie renouvelable en plus et une réduction encore de 20% de l'intensité énergétique. Donc on a des objectifs chiffrés à 2020 qui sont assez contraignants. Et donc son application, ben, on a deux instruments. Le premier, c'est toujours un instrument au niveau européen, ce sont les marchés de quotas d'émissions négociables. Donc j'ai bien écouté le petit film, je n'ai pas parlé de permis ou de droit à polluer. Donc un marché qui est ouvert essentiellement au secteur industriel et qui touche 40% au niveau européen, mais c'est à peu près 30% en France. Mais il y a d'autres sources d'émissions de gaz à effet de serre, et on pense en particulier au secteur des transports, qui est plus diffus, donc qui peut difficilement être, enfin, bien que ce soit possible quand même, à mon sens, mais rejoindre le système de quotas d'émissions négociables, et le secteur résidentiel, les ménages, essentiellement. Donc, bah, pour cela, en France, il a été décidé de mettre en place ce qu'on appelle, différents noms, hein, la taxe carbone, je crois que c'est le mot le plus simple et le plus compréhensible. Ça s'appelle également la contribution climat-énergie. Donc c'est le résultat de la commission Rocard, et donc cette taxe carbone s'appliquera au 1er janvier 2010. Et donc je voudrais dire quelques mots sur cette taxe carbone qui doit nous inciter à aller dans le sens de cette croissance verte, hein. Mais c'est une contrainte environnementale. Je pense qu'il ne faut pas oublier quand même que cette croissance verte, ce n'est pas une révolution au sens de la révolution numérique. C'est une contrainte qui pèse, et donc ça reste quand même un choc d'offre pour une économie donc, qui a des coûts. Mais on accepte ces coûts-là parce que justement ils vont nous éviter les coûts du changement climatique qui seraient beaucoup plus importants. Alors, si vous avez regardé un petit peu la presse, l'Agence internationale de l'énergie vient de sortir cette semaine son nouveau rapport. Ils sortent un rapport tous les ans. Donc le rapport 2009 vient de sortir et ils ont fait de la prospective, ils ont évalué le coût. De coût mondial pour mettre en place cette croissance verte au sens qui éviterait qu'on émette trop de gaz à effet de serre et qu'on reste sur un objectif de 450-500 ppm, c'est-à-dire voilà, c'est la concentration dans l'atmosphère qui serait souhaitable de ne pas dépasser. Et bien ce coût sur les 20 années, c'est quand même 7 000 milliards d'euros. Et donc, c'est autour de 1% du PIB mondial. Hein. Donc, ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas négligeable. Alors, si je prends le lien entre révolution technologique, mais il faut qu'il y ait un pouvoir d'achat, il faut qu'il y ait une demande qui soit solvable à ce côté-là. Donc, comme l'a très bien rappelé Cécile, les dépenses contraintes, c'est maintenant une part relativement importante des dépenses des ménages. Donc en France, je reprends les chiffres que tu as évoqués, hein. En 1979, c'était seulement 20% des dépenses des ménages qui étaient contraintes, au sens où tu l'as évoqué, c'est-à-dire trois grands éléments, hein, les contraintes liées au logement, loyer, charges, mais aussi tout ce qui est autour de le chauffage. Donc on va trouver la dimension énergétique à l'origine du réchauffement climatique, on retrouve l'eau, etc., etc. Il y a les communications. Alors là, on fait le lien avec les nouvelles technologies. On voit bien qu'elles-mêmes, ces nouvelles technologies contribuent à la montée des dépenses contraintes et les assurances et autres. Alors, cette part, donc 20% en 79, eh bien, on est à 36%, 36% en 2006. Et sur ces 36%, environ un quart provient des dépenses en énergie fossile. J'ai bien dit en énergie fossile. J'enlève l'électricité parce qu'en France, 80% c'est du nucléaire, donc pas vraiment à l'origine de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des inégalités très fortes entre les ménages en ce qui concerne ces dépenses contraintes, puisque en 2006, toujours, si on prend le premier décile, c'est-à-dire, pour faire simple, les 10% des ménages les plus pauvres en France, on n'est pas du tout sur la moyenne, à 36%, on est un tout petit peu en dessous de 50%. Donc sur le premier décile, eh bien, la moitié de leur consommation se fait sous forme de consommation contrainte. On n'était qu'à 24% en 79, donc c'est eux qui ont vu ce montant le progresser. Alors que le dernier décile, les 10% des ménages les plus riches, ils sont à 27%, donc il y a une marge importante pour justement qu'une partie de leur consommation se reporte sur les nouveaux marchés. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que donc il va y avoir avec la montée du prix des énergies fossiles, d'ailleurs qui ne sera pas seulement due à la fiscalité environnementale. Il y avait jeudi soir une table ronde sur le titre est évocateur d'ailleurs, survivre au pétrole cher et volatile. Donc on rajoute la fiscalité environnementale va accroître le prix des énergies fossiles, mais ce prix lui-même, de par la raréfaction de ces ressources, va fortement augmenter. Donc il y aura deux mécanismes qui font que ces dépenses contraintes vont fortement augmenter. Et donc, c'est un des problèmes de la fiscalité environnementale, c'est qu'elle est relative, elle est ce qu'on appelle, elle est régressive, puisqu'elle va affecter plus les ménages pauvres par rapport aux ménages riches. Et puis, il y a cette disparité liée à la consommation. On a aussi une disparité, je pense que le débat sur la taxe carbone l'a bien montré, on a aussi une disparité géographique. C'est clair que ces dépenses énergétiques fossiles des ménages français, elles changent selon le revenu des ménages, mais elles changent aussi beaucoup selon la localisation géographique des ménages. Et donc, si je reprends mes chiffres, vous avez à l'espace rural, la part de la consommation pour le carburant, c'est un petit peu moins de 5% de l'ensemble des dépenses, alors que c'est inférieur à 3% si on prend Paris intramuros. Donc on a des disparités géographiques qui viennent de se rajouter à ce premier point. Donc on a une part importante de la consommation et surtout ce qu'il faut voir c'est en perspective parce que je rappelle la taxe carbone ça sera 17 euros la tonne de carbone et donc c'est environ 4,5 centimes supplémentaires sur le litre de gasoil. Ça va faire 0,35 centimes sur le kilowattheure de gaz. Alors 4,5 centimes sur le litre de gasoil, ça fait grosso modo 2,30 euros pour un plein de 50 litres. C'est pas négligeable, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas ce que recommandaient les économistes. Les économistes, et d'ailleurs, ce n'est pas ce que recommandait le rapport Rocard, puisque ce n'était pas 17 euros, c'était 32 euros personne ne recommandait, effectivement. 32 euros qui étaient recommandés, donc un niveau déjà aujourd'hui qui aurait dû être plus élevé, on double pratiquement, mais surtout, et là tout le monde est d'accord, même le politique, c'est un point de départ. C'est-à-dire que cette taxe, cette contribution, doit évoluer au cours du temps. Elle doit évoluer, alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais elle doit augmenter d'environ 4% chaque année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 2030, on devrait être autour de 100 euros la tonne de carbone et on devrait atteindre 200 euros en, en, en 2050. Alors, vous voyez bien que ce que ça implique, ça veut dire que c'est grosso modo 45 centimes par litre de diesel. Donc, c'est déjà une part importante qui normalement doit croître, fortement pour nous inciter. Ce sont ce qu'on appelle des taxes incitatives. Leur vocation n'est pas, au premier niveau, de rapporter des recettes à l'État. Leur vocation est de nous faire changer de comportement, justement, pour s'inscrire dans cette croissance verte. Alors on voit bien qu'il faut que y ait des alternatives. Il faut qu'il y ait une offre d'alternatives pour qu'on puisse effectivement changer de comportement. Et c'est là qu'on voit que ça pose un problème en zone rurale, parce qu'on ne va pas développer des transports en commun sur des zones où la densité est relativement faible. Alors, donc, face à ces effets distributifs, deux mesures ont déjà été prises. La première, je pourrais qualifier de bonne, c'est-à-dire, ce que vous allez payer, on va vous le rendre. On va vous le rendre, vous les ménages, alors sur ça ne sera pas exactement ce que vous avez payé, mais grosso modo, deux éléments vont être pris en compte, c'est la structure du ménage, donc ça va dépendre du nombre de personnes dans le ménage. Alors, je crois que j'avais les chiffres ici, un couple avec deux enfants, donc deux conditions, le nombre de personnes dans le ménage, et est-ce que vous êtes en zone urbaine, c'est-à-dire avec les transports en commun, donc que vous pouvez plus ou moins facilement avoir un mode alternatif ou pas. Donc un couple avec deux enfants et qui aurait à sa disposition le transport en commun, ça devrait être de l'ordre de 112 euros de compensation. Donc sous quelle forme ? Si vous payez l'impôt sur le revenu, ça sera une diminution de votre impôt sur le revenu de 112 euros. Et puis si vous ne payez pas l'impôt sur le revenu, ça sera un chèque, ce qu'on a appelé le chèque vert. Et puis le même couple avec deux enfants qui serait à la campagne, sans transport en commun, ça sera 142 euros. Donc ça, c'est une assez bonne chose, parce que vous pourrez dire, oui, mais attendez, si vous me redonnez, en moyenne, vous me redonnez ce que j'ai payé, est-ce que ça va pas être incitatif ? Si, ça va être incitatif, parce que ça change le prix. Ça change le prix relatif. Et donc, ça vous incitera, même si on vous redonne de l'argent forfaitairement, ça vous incitera à modifier vos modes de circulation. C'est-à-dire que vous serez gagnant. Vous voyez bien, si vous basculez au transport en commun et que vous n'utilisez plus votre véhicule, on vous redonnera quand même le chèque ou la baisse d'impôt. Donc, vous serez doublement gagnant. Donc, il y a toujours la dimension incitative, mais en essayant d'atténuer les aspects distributifs. Alors, il y a une autre mesure qui a été prise, c'est que... Mais alors, celle-là, à mon avis, elle n'est pas bonne, puisqu'on perd la dimension incitative. Et pourtant, c'était à ces secteurs-là qu'était adressée la taxe. C'est qu'il y a trois secteurs qui vont être exonérés. C'est-à-dire le secteur des transports, qui est quand même celui qui était visé, je pense, par cette taxe, les agriculteurs et les pêcheurs. Alors là, puisqu'on dit exonération, eh bien, on perd toute la dimension incitative. Alors, il y a d'autres mesures qu'on pourrait souhaiter, et je terminerai à ce niveau-là. On pourrait aller plus loin dans la compensation, parce que ce que j'ai dit sur la taxe carbone, on voit bien, en tant que ménage, on la paye directement quand on va aller faire son plein à la station-service, on va le payer directement lorsqu'on va faire remplir sa cuve de fuel, mais on paye aussi indirectement les marchés de quotas d'émissions négociables. Si les entreprises, donc, sont... Il y a un coût pour les entreprises qui est relativement faible aujourd'hui, parce que... Alors ça explique les 17 euros aussi, c'est que c'est grosso modo le prix moyen de la tonne de carbone échangée sur ces marchés-là. Mais il y a un autre élément, c'est que pour l'instant, ils sont donnés gratuitement aux entreprises, ces quotas. Bon, à terme, ils sont donnés aux enchères. Donc ça aura un coût plus important pour les entreprises dès le départ. Et si elles ne sont pas confrontées à une compétitivité forte, elles répercuteront ce coût dans le prix du bien qu'elles vendent. Et donc, ça sera un coût indirect pour les ménages qui apparaîtra. Donc, certains économistes disent, allons jusqu'au bout du raisonnement, transférons également cette augmentation de prix. Les recettes que récupérera l'État des enchères, elles devraient le réallouer en partie à celui qui paye, in fine, cette taxe ou ces marches, ces quotas, c'est-à-dire le consommateur. Alors c'est une proposition des économistes. Il y a d'autres pistes, on voit très bien, alors qu'il y a plutôt du côté des modes alternatifs, c'est le Grenelle de l'environnement, et en particulier sur les logements, où les coprets, etc., etc. On allège le coût de réduction de la consommation énergétique. On l'a vu, il faudrait développer un peu plus intensément les transports en commun. Et puis, il y a aussi toute une réflexion sur la ville et le lieu d'hébergement par rapport au travail. Voilà, j'en terminerai là.
Bien, merci beaucoup. Bettina Laville m'a soufflé que ses enfants piétinaient pour acheter leur voiture. C'est bien ça, hein?
Non, n'exagérons pas, ils ne sont pas si vieux que ça.
Ah bon? Bon, alors, l'une des idées que l'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est que la croissance demain, elle sera verte ou elle ne sera pas. Alors, Bettina Laville.
Eh bien, je n'en sais rien, mais je l'espère. Alors, moi, je voudrais d'abord dire par rapport au rapport que, ayant effectivement fait partie de cet exercice, je l'ai trouvé particulièrement intéressant parce que c'était la première fois qu'au sein de l'État, dans un rapport, on posait un peu impertinemment la question croissance verte et égalité-inégalité sociale. Et finalement, le rapport a été lancé à la fois en même temps, mais avant le débat sur la taxe carbone. Et vous venez parfaitement d'illustrer tous les débats qu'il y a eu autour de la taxe carbone, de l'égalité sociale et de la question qui se pose entre l'efficacité verte, si j'ose dire, et également l'égalité sociale. Ces débats-là, finalement, ne sont non seulement pas résolus, mais ne sont pas très bien posés. Il n'y a pas assez d'éléments en fait économiques, il n'y a pas assez d'études économiques et le rapport a le mérite de décoiffer un peu sur certaines idées reçues. Donc c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que finalement moi j'ai presque hésité à dire oui à cause de l'expression croissance verte. Je sais que vous avez eu un débat hier soir sur tout ce qui est décroissance, etc. Il faut bien voir l'échiquier idéologique qu'il y a autour de ces questions, qui est tout à fait considérable. Entre ceux qui sont pour la croissance avec un petit peu de technologie verte, ceux qui sont pour la croissance verte, ce qui implique déjà finalement une utopie de changement de société, d'autres modèles de développement, pour reprendre le titre du rapport. Entre ceux qui sont pour changer le mot croissance, parce que tout simplement, il faut changer de modèle général au XXIe siècle, puisque c'est le mode de croissance qui a trop pesé sur nos ressources et qui a provoqué un certain nombre de dysfonctionnements. Il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a la perte de biodiversité. Et il y a aussi, finalement, et on l'a bien vu pendant la crise, et je pense que là, on n'y réfléchit plus, vous avez tout à fait raison, il y a un monde de la démesure, de l'hubris, en fait. Et s'il y a un an, tout le monde parlait de ça et se posait la question de notre mode de société, maintenant que ça reprend un peu, on y pense beaucoup moins. Et je crois que c'est le problème central. Bien. Donc à partir de là, il y a un certain nombre de personnes adeptes d'un changement de modèle économique qui ne veulent plus parler de croissance et qui emploient d'autres mots. Alors, et ça va effectivement jusqu'à la pointe de l'échiquier qui est la décroissance. Mais il y a toutes sortes d'autres appellations entre tout cela. Il y a la simplicité volontaire, il y a la croissance sobre, que sais-je encore. Enfin, on en a bien 10 ou 15. Moi, je suis personnellement pour remettre ce mot peut-être un peu vieilli à la mode, qui est le mot de prospérité. Tout simplement parce que le mot de prospérité a prospère, si j'ose dire, dans son étymologie, c'est-à-dire le bonheur. Et on voit bien que le bien-être, en tout cas. Et on voit bien que, par exemple, la remise du rapport Stiglitz remet complètement cette affaire au centre du débat. Hein. Qu'est-ce qu'une société de croissance où il n'y a pas de bien-être? Qu'est-ce qu'une société où il y a une reprise tout à fait importante et en même temps un malaise dans la vie sociale, dans le travail, un certain nombre de suicides qu'on vise de plus en plus, hein, et qui prouve au contraire le mal-être. Qu'est-ce finalement que la reprise? Est-ce que c'est la prise sur l'économie comme avant, hein? Ou est-ce que c'est une reprise au sens finalement étymologique du mot, ou est-ce que c'est une reprise autrement? Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on voit les 0,5, 0,7, 0,8 recommencer, on perd la dimension de ce débat. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, de tout à fait important. Et le rapport n'a pas tout à fait posé la question, c'est pourquoi moi j'ai fait cette remarque à la fin, mais il l'a abordé en termes économiques très précis et au niveau de l'égalité. Ça, c'est vraiment la première chose que je voudrais dire. La deuxième, c'est que cette affaire de croissance verte est finalement une question médiatique qui a fait tous les titres au moment de la crise, c'est-à-dire il a été considéré comme une opportunité. On s'est dit, c'est vrai, la crise montre que finalement les vieux mécanismes économiques ne sont plus adaptés à la conciliation de l'économie, du fonctionnement économique et en même temps de la sauvegarde de l'environnement. Donc on a un truc génial, c'est la croissance verte. Alors maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le contraire. D'ailleurs, le journal Les Échos, il y a une semaine, publiait un supplément en disant que la croissance verte, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait absolument condamner, que c'était une illusion, une autre bulle, etc. Illusion, oui. Avec un certain nombre de choses intéressantes dans le numéro et tout à fait contestables par ailleurs. Et d'autre part, moi, j'ai fait partie de la commission Grand Emprunt qui rend son rapport au président de la République dans 4-5 jours, là. Et au sein de cette commission, on a bien vu qu'il y avait des gens qui étaient tout à fait acquis à la transformation en particulier de la recherche vers les nouvelles technologies, vers tout ce qu'on pouvait tirer d'abord de compétitivité scientifique par rapport aux autres pays et d'une part et d'autre part d'efficacité économique par rapport aux écotechnologies. Il ne faut quand même pas oublier un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, le résultat économique des écotechnologies dans le monde, c'est 1 000 milliards d'euros dans le monde, ce qui n'est quand même pas forcément négligeable. Bon. Et notre part, à nous la France, dans cette affaire, est bien moins importante qu'on ne devrait, qu'on devrait avoir pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous sommes en retard et donc forcément un peu moins en retard dans la recherche, sauf qu'on a donné on n'a pas forcément gardé nos brevets. Ça, c'est une spécificité bien, bien française. On est en retard par rapport à l'éolien et au solaire dans des conditions absolument considérables. Hein. Je veux dire, et tout le débat aujourd'hui qui consiste à dire mais est-ce que c'est bien de faire de l'éolien et du solaire est un débat absolument grotesque quand on regarde les chiffres hein, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Espagne. Très vite par rapport aux États-Unis qui vont rattraper leur retard de manière absolument vertigineuse et qui, eux, ont des brevets et ont investi très, très massivement par rapport à la recherche. Donc, on a un retard là-dessus. Et d'autre part, on a quand même une faible compétitivité sur toutes sortes d'écotechnologies par rapport à d'autres. Donc, si vous voulez, il y a en fait ceux qui voient encore une fois une opportunité en matière économique et en matière de recherche, et puis il y a ceux finalement qui y voient quelque chose de complètement marginal et qui va certes retinter un petit peu l'économie mais pas la transformer. Et c'est véritablement, je trouve que c'est ce débat qui est au cœur du sujet, évidemment surtout à la veille de Copenhague. Et si, vous le verrez la semaine prochaine, bon, enfin, tout est dans les journaux, donc on se demande pourquoi, moi je me sens astreinte à un devoir de réserve, pas forcément le même que d'autres. Hein.
Vous n'êtes pas Goncourt.
Oui, c'est oui. Ça, voilà. C'est pour ça que je disais ça. Voilà, enfin, j'étais 30 ans au fonctionnaire, alors moi ça me concerne peut-être un peu plus. Mais enfin, c'est dans les journaux, donc il est évident que nous allons, il est évident qu'il y a près de 10 milliards dans ces propositions, hein, c'est que des propositions faites sur le grand emprunt. Si d'ailleurs on reprend le questionnement croissance verte et nouveau modèle de société, on voit même d'ailleurs que ce grand emprunt pose une question fondamentale. Qu'est-ce que c'est le débat sur les générations futures? Vous savez, la définition sur la sauvegarde des générations futures dans la déclaration de Rio, c'est de ne pas peser nos modes de développement, de ne pas faire peser nos modes de développement, nos modes trop consommateurs en énergie, etc., sur les générations futures. Bon, il est évident qu'il y a une sorte d'éthique de l'équilibre budgétaire, ou en tout cas de l'équilibre de l'entrée ressources et de l'entrée dépenses. Et on fait un grand, et on dit, la définition du grand emprunt, ça a été un exercice sémantique tout à fait intéressant dans la rédaction, la définition du grand emprunt, c'est on emprunte pour les générations futures. Donc vous voyez dans quel tissu de contradiction on est. Et finalement, on essaye de dire qu'à la fois, il faut réserver une part pour les investissements, parce que là, il s'agit d'investissements pour les générations futures, et en même temps baisser la dette de fonctionnement. Bon, ça se tient à peu près, mais enfin, il y a quand même des contradictions. Le troisième élément, moi, je voulais souligner dans ce rapport, c'est une très intéressante approche de la consommation. Alors, bien entendu, parce que vous avez dit tous les deux, c'est-à-dire par le biais de l'équité, par le biais de... Est-ce que finalement, cette croissance... Est-ce que les instruments de cette croissance verte sont aujourd'hui à la portée d'un revenu moyen? C'est ça, la question. Bon. Et finalement, il faut être honnête, la réponse, c'est pas tout à fait oui. Hein, alors qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui va, au contraire... On a l'impression que c'est consensuel, finalement, cette croissance verte. Et quand on regarde les chiffres, ça l'est beaucoup moins. Et d'ailleurs, aussitôt qu'on a sur la table un instrument pratique comme la taxe carbone, hein, même si on a essayé de la cacher, si on a essayé de cacher pendant un an son côté CAC, taxe, par cette merveilleuse formule, la contribution climat-énergie, eh bien, au moment où on est dans le budget de l'État, etc., on est bien obligé de l'appeler taxe. Et vous l'avez d'ailleurs tout à fait fait. Bien. Alors, par rapport aux consommateurs, on a exactement la même palette que ce que j'ai décrit dans le développement durable et la croissance. Vous avez une étude de la consommation. Nous sommes dans une société où il y a des consommateurs et des producteurs. Donc le rapport a rappelé ça, je crois. Il faut le rappeler de manière extrêmement vive, parce que vous avez là aussi, et médiatiquement, une idéologie du nouveau consommateur. Hein. Alors vous avez, le consomme apostrophe acteur, n'est-ce pas? Et vous avez ce consommateur idéal, adepte de la croissance verte, qui se précipiterait le samedi matin, cheveux au vent, dans les marchés bio, pour aller chercher leurs produits, pour aller chercher des produits forcément apporté par les AMAP ou à la ferme du coin. Alors la ferme du coin pour une grande ville est quelque chose quand même d'extrêmement particulier qu'on cherche souvent encore. Et ensuite, qui reviendrait consommer dans la paix et dans la joie en espérant que le sommet de Copenhague parviendra à un traité, etc. Bon, tout ça est évidemment une illusion. Et je suis totalement militante de l'environnement, il n'y a qu'à regarder mon CV pour ça, mais je suis un peu énervée parfois de cette conception. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a véritablement, vous savez, il y a quelqu'un qui l'a parfaitement décrit, c'est Gilles Lipovetsky, quand il a écrit son livre sur l'hyperconsommation. Et ce livre, qui est un livre plus philosophique qu'économique, mais qui se fonde sur des chiffres tout à fait intéressants, dans ce livre, Lipovetsky raconte très bien que cette société de consommation est en train finalement de garder ces mêmes valeurs, ces valeurs de consommation, d'attachement finalement à l'accroissement de biens, mais que ça s'est déplacé et que ça se déplace vers d'autres biens, ceux issus de la croissance verte, mais que ce n'est pas forcément un nouveau changement de société, etc. Et on a étudié dans le rapport les contraintes, vous avez prononcé le mot, hein, parce que c'est des contraintes, le réchauffement climatique, ça c'est clair, et les contraintes sont transformées très souvent par le monde économique en opportunités de croissance, alors qu'elles doivent être, à mon sens, transformées, bien entendu, en opportunités de développement, mais également, et ça je crois que c'est très important, en changement de modèle de société. Et finalement, il y a un tome 2 du rapport à faire, qui est un projet de changement de modèle de société véritable, à partir, ça il faut le dire, d'une vraie aspiration. Mais il faut bien voir qu'il y a toutes sortes de gens, et on essaye de le prouver, qui ont une aspiration à consommer autrement, à être ce consommateur qui, le samedi matin, etc., etc., à consommer autrement, mais qui n'en ont tout simplement pas les moyens, parce qu'avec la structure de moyenne du budget, eh bien, il est évident qu'on a tendance à aller dans les supermarchés faire ses courses et pas forcément d'aller dans le rayon bio qui, même si aujourd'hui, et ça il faut saluer le Grenelle, a de plus en plus d'aide qui lui permet d'accéder à des prix qui approchent les prix des autres produits, est encore, il faut bien le dire, plus cher. Voilà. Et donc, ce que je voudrais dire simplement en conclusion, parce que vous savez, je ressens vos mouvements impatients sur ma gauche, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que on a peut-être... Il existe un organisme que j'ai créé il y a 15 ans, qui est le Comité 21. On a sorti un rapport, là aussi, un petit rapport, qui réfléchit un petit peu sur la crise, et on est en train de créer un observatoire de la suite de la crise par rapport justement à ces mouvements de consommateurs et d'autre part ces mouvements écologiques. Et on voit bien que la crise a été un coup de semonce, mais qu'on ne sait pas si finalement on a pris les bonnes mesures, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, pour continuer autrement. Bon, alors, je ne vais pas insister sur ce que tout le monde dit, c'est-à-dire, je crois que j'ai vu une déclaration du directeur général de la Bank of America à qui on dit, mais alors, qu'est-ce qui va changer maintenant que vous pouvez rembourser l'État ? Et il répond, eh bien, ce qui va changer, c'est que nous allons pouvoir revenir à nos bonus d'avant. Bon. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on ne mesure pas l'effet social par rapport aux populations et aux populations du monde, en fait. Hein. On ne mesure pas l'impact social et l'impact scandaleux. Et je crois que là, il faut absolument qu'on invente ce qu'on a essayé, en tout cas, on a essayé de faire un peu de vérité dans le rapport, d'autres prémices pour un nouveau modèle de société.
Bettina Laville, je trépignais parce que je voudrais aller au marché acheter et j'espère qu'il y aura encore quelques carottes.
Donc à Lyon, il est excellent.
Absolument. Oui, absolument.
J'espère que le maire est là.
Et je voulais aussi juste, Bettina Laville, vous signaler que à la Tribune, nous avons créé, depuis que nous avons repris la Tribune il y a 18 mois, une rubrique quotidienne qui s'appelle Green Business. C'est une page entière, ou deux par jour, qui est consacrée à toutes ces questions, mais sous l'angle, effectivement, opportunité. Opportunité et innovation.
Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, si je puis me permettre, que dans votre journal, vous avez fait également un numéro sur les femmes.
Oui, c'est exact. Donc, oui. Nous avons interrogé 24 femmes,
voilà,
dont vous-même.
Voilà, 24 femmes juste après le sommet d'Auville et qu'elles ont toutes dit à peu près ce que je me suis permis de dire. Donc, il y a un nouveau modèle de développement prôné par les femmes qui, pardonnez-moi, messieurs, me paraît parfois un tout petit peu différent. Bon. C'est vous qui le dites, hein, c'est la Tribune.
Bien sûr. Donc, je vais peut-être, avant de passer la parole à la salle, proposer à chacun des intervenants de réagir, parce qu'on a évoqué beaucoup de questions. Il y a une question quand même de base que Bettina Laville a abordée, j'aimerais peut-être avoir les réactions des uns et des autres, avant de passer la parole à la salle. C'est cette question quand même préalable, qui est pourquoi réfléchir à un nouveau modèle de croissance aujourd'hui ? La perspective, c'est la décroissance. Bettina Laville l'a évoqué, c'est quand même la base. Après, on pourra parler du modèle de croissance, mais si on pense que, compte tenu de l'environnement, compte tenu des ressources rares, compte tenu du développement de nouveaux pays émergents, etc., on est dans des perspectives de décroissance. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne sais pas. D'abord, si on regarde les choses d'un point de vue international, il faut voir l'immense appétit de croissance qu'il y a aujourd'hui dans les pays émergents. Donc déjà, cette question-là, vue sous un angle mondial, c'est une non-question. Donc, Par contre, là où ça devient une question, c'est effectivement la contradiction entre ce formidable besoin de croissance des pays émergents et les contraintes environnementales dont on parlait à l'instant avec le film qui précédait notre table ronde. Donc c'est la conciliation entre les deux qui est quelque chose de tout à fait fondamental. Il y a des éléments d'espoir, c'est-à-dire que quand vous allez en Chine, il y a effectivement, on voit des choses à la fois affreuses. Moi, j'ai été par exemple dans une ville de province dans laquelle on ne voit pas le soleil du 1er janvier au 31 décembre. Donc,
oui, c'est Chongqing, je crois.
C'est Langshu. C'est Langshu, la capitale du Gansu, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres dans d'autres. Enfin, celle où j'étais, c'était Langshu. Mais il y en a d'autres en Chine. Mais en même temps, derrière les Japonais, les Chinois sont les deuxièmes pour la voiture électrique. C'est-à-dire qu'il y a. On est dans une espèce de course de vitesse de ce point de vue-là. Mais je pense qu'il faut prendre les choses franchement, et le discours sur la décroissance, il ne correspond pas à la réalité. Par contre, la question de la croissance verte, elle est plus que jamais nécessaire.
Oui, alors sur cette question, effectivement, le rapport a pris résolument une option de croissance, tout en mettant bien en valeur les contradictions qu'il peut y avoir entre une consommation même rénovée, même plus servicielle, même plus verte, et le fait qu'effectivement, nous consommons toujours autant de biens. Et que ce qui a permis le progrès et singulièrement le rattrapage des pays émergents et le fait qu'on soit des milliards d'êtres humains sur la planète à pouvoir améliorer notre bien-être, puisque le rattrapage des émergents, c'est aussi la sortie d'un certain nombre de populations de la pauvreté, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Aujourd'hui, effectivement, on est dans une contrainte écologique bien plus grave et qui pourrait nous faire retourner au malthusianisme et qui impose une action publique, nationale, locale et mondiale, européenne évidemment, qui est extrêmement forte, puisque l'environnement, c'est un bien public sans prix, que ce n'est pas le marché qui va lui donner un prix, et que pour qu'on ait quelque chose qui internalise les externalités, avec toutes les contradictions et toutes les difficultés sociales que cela peut causer, effectivement, il faut du volontarisme, mais ce volontarisme est pensé, puisqu'effectivement, c'est plutôt pour éviter la décroissance.
Lionel Ragot, je voudrais rebondir. En vous écoutant, j'avais l'impression que la lutte contre le réchauffement climatique, la taxe carbone, enfin la fiscalité écologique, c'était à la fois un coût, une contrainte et finalement un obstacle à la croissance. Est-ce qu'on ne peut pas renverser et dire que les éco-technologies, les éco-industries, le green business, tout ça, c'est ça qui va nous faire rebondir, qui va être le moteur d'une nouvelle croissance?
Vous avez tout à fait raison, j'ai insisté sur le côté inégalitaire et le côté coût. Mais je l'ai rappelé aussi, c'est un instrument incitatif. Donc si on veut faire émerger ces nouvelles technologies, parce que de mon point de vue, le problème est technologique. Pour produire, on a besoin des énergies fossiles et on ne sait pas utiliser sans émettre de carbone. Donc on est confronté à un problème technologique. Et je pense qu'à moyen long terme, la solution pour pouvoir continuer à croître, mais croître au sens satisfaire plus de besoins et donc répondre à l'aspiration humaine, la prospérité. Donc je crois que la décroissance ne peut pas être un objectif en tant que tel, mais il y a cette contrainte environnementale, cette contrainte technologique, et à moyen long terme, la solution ne peut être que technologique. Alors, il faut faire émerger ces nouvelles technologies. Pour les faire émerger, il faut jouer à la fois sur l'offre et sur la demande. Donc sur la demande, pour inciter les agents à se retourner vers les technologies moins polluantes. Du côté de l'offre, faire émerger des technologies de production moins polluantes. Donc ça prend la forme de subventions à la recherche. Donc, peut-être que le grand emprunt va contribuer justement au développement de la recherche en technologie propre. Et puis au changement de comportement via les taxes incitatives ou d'autres formes, les normes. C'est-à-dire que pour le logement, on ne passe pas par la taxe, on passe par des normes de construction, mais qui ont un coût aussi, parce que vous n'utilisez pas les mêmes matériaux. Donc il faut bien voir sous cet aspect-là, c'est-à-dire que la croissance verte, elle naît d'une contrainte. Elle naît d'une contrainte environnementale, et donc elle a un coût, mais n'oublions jamais qu'elle va nous faire éviter des coûts beaucoup plus importants qui seraient liés effectivement au réchauffement climatique.
Bettina Laville, vous voulez réagir ?
Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous. La décroissance, ou bien c'est une interrogation philosophique pour une société d'individus, et ça l'a toujours été. Ça a commencé par Diogène, vous voyez, ça date pas des Trente Glorieuses, ou bien c'est une question mondiale qui n'a absolument aucun sens pour les trois quarts du monde, et même un peu plus, donc c'est un vrai sujet. Alors, en fait, il y a deux directions. La première direction, ça consiste à dire qu'on peut vivre avec un environnement contraint et dégradé à 9 milliards d'individus en 2050 grâce aux écotechnologies et grâce à cette transformation. Ça, moi, je pense que oui, sauf que le basculement de l'économie dans les 20 ans à venir est d'un coût absolument extraordinaire. Regardez, parce qu'on a pris beaucoup de retard, parce qu'on n'a pas pris les choses à temps. Je ne sais pas si René Passet est arrivé déjà pour la prochaine table ronde, mais moi, je me suis nourrie de toutes ces analyses il y a très longtemps, et il fait partie des très nombreuses personnes qu'on n'a pas assez écoutées. Regardez, par exemple, aujourd'hui, toutes les énergies renouvelables, évidemment qu'elles sont plus chères, parce que du coup, il faut mettre à niveau l'ancienne économie et la nouvelle, c'est-à-dire subventionner, hein. Et donc c'est forcément plus cher au niveau global par rapport à la charge que supportent les pouvoirs publics. Et en même temps, il faut aller plus vite parce qu'il y a une compétition internationale. Donc ça fait toutes sortes de contraintes. Bon. Donc c'est évident. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas empiéter sur la table ronde suivante, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a, à un moment donné, séparé l'environnement et le développement. La conférence de Rio avait eu un avantage. Ça a été un peu facile parce que la conférence de Rio, c'était les grands principes, ce n'était pas encore les normes. Elle avait décliné ensemble. Ensuite, on a séparé les deux branches. On a dit, bah, écoutez, ça va être le millénaire maintenant, hein, tout le cycle onusien du millénaire qui va s'occuper de ça. Il n'y a qu'à voir, il y a un article ce matin dans un journal concurrent que je ne citerai pas, bien entendu, une étude sur le budget français, hein, qui est quand même pas la France, c'est quand même pas la dernière en matière d'aide au développement, sur l'aide française au développement, bon, qui a aujourd'hui encore régressé. Et on sait parfaitement que les objectifs du millénaire, non seulement ne sont pas tenus, mais sont scandaleusement pas tenus. Et d'autre part, vous avez de l'autre côté, vous avez eu à Johannesburg une espèce de frénésie de croire que les projets environnementaux des grandes entreprises, réels d'ailleurs, réels, allait complètement résoudre le problème. Eh bien non, il fallait continuer d'essayer de décliner ça ensemble. Et aujourd'hui, j'ai vu Laurent Stefanini, l'ambassadeur chargé de l'environnement, qui est arrivé. Je crois que ce n'est pas lui qui va me contredire, surtout qu'il n'est pas sur la tribune là, pour l'instant, mais enfin, il pourra le faire après. Mais je veux dire, il est absolument évident qu'aujourd'hui, on le paye, parce que vous avez un blocage à la conférence de Copenhague des pays du Sud, qui disent vous avez été responsable de nos modes de civilisation, vous avez refusé de nous aider, d'autant pendant la crise. Il ne faut pas oublier qu'il y a un an, les pays du Nord ont dit aux pays du Sud, ah mais écoutez, on ne peut pas rentrer dans les montants énormes que vous nous demandez pour faire aboutir un futur traité, vous vous rendez compte, on vient de tout donner aux banques, voilà. Et bien ça ne leur a pas plu, et si on s'en tire à Copenhague, ça sera miraculeux.
Merci.